Bonsoir. Donc, je suis très heureuse d'être ce soir à Millau pour essayer de vous informer sur la 5G et de façon plus générale sur les champs électromagnétiques. Je parlerai des effets pour la santé, évidemment, je suis médecin, mais pas uniquement. Je parlerai aussi de l'aspect plus sociétaux et de la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui face à la 5G. Donc je vais remercier les organisateurs des différents groupes et les Gilets jaunes qui m'ont invité ici. Ce n'est pas la première fois que j'interviens avec des Gilets jaunes, puisque j'ai déjà intervenu il y a quelques mois. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur YouTube « Je veux du soleil, pas de la 5G » qu'on avait fait tourner à ce moment-là. Je suis médecin, je suis une scientifique. Alors, je ne déroule pas mon CV parce que je suis dans l'arrogance qui est si fréquente dans notre société à l'heure actuelle, mais parce que ça apporte une crédibilité à mes propos qui gêne énormément les autorités et les opérateurs de mobile, parce qu'ils ne peuvent pas dire « Ouais, celle-là, elle raconte n'importe quoi, elle ne sait pas de quoi elle parle », puisque donc j'ai un doctorat en médecine, j'ai plusieurs spécialités de médecine, et j'ai 3 titres de Harvard, de l'école de santé publique. Évidemment, je ne sors pas de la business school de Harvard. Mais quand le gouvernement se vante qu'il a 3 personnes avec un titre de Harvard, eh bien moi je ne suis certainement pas dans ce gouvernement, mais à moi toute seule, j'ai autant de titres. Pas les mêmes, donc voilà. Donc, ceci étant, j'interviens gratuitement. On rembourse mon voyage en train de deuxième classe vieux machin, alias senior, donc ça va. Mais du coup, je n'apprécie pas quand j'interviens qu'il y ait des personnes qui tirent avantage de ces interventions pour faire du commerce. Donc, je ne patronne pas les livres qui ont été vendus. Certains sont OK, d'autres sont particulièrement anxiogènes, donc capables de rendre hyper électrosensibles même ceux qui ne le sont pas. Également, je ne veux pas que ce genre de réunion soit parfois une occasion de draguer, entre guillemets, les hyper-électrosensibles pour leur proposer tout et n'importe quoi. Je reparlerai de l'EHS dans mon discours, mais je tiens à faire cette introduction, même si certains ne l'apprécieront pas, parce que je dis ce que je pense, sinon je ne serai pas ici. Et deuxièmement, parce que bien sûr, il y a des médecins pourris, bien sûr, il y a des institutions pourries, bien sûr, il y a des gouvernements qu'on doit combattre, mais il y a aussi des pourris dans le mouvement alternatif, et il y a des gens qui font vraiment leur beurre sur la souffrance des personnes, et ça non plus, c'est pas acceptable. Donc après cette introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on sait de la 5G ? Eh bien, la réponse est très simple, je pourrais dire « on ne sait rien ». Donc on pourrait en rester là. Vous seriez quand même un peu déçus. Mais d'un autre côté, c'est en grande partie la vérité. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je me bats avec des associations contre la 5G. Parce que je pense qu'il est totalement illégitime d'exposer la totalité de la population de la planète, parce que la personne n'y échappera, notamment avec les satellites qui vont tourner là-haut, comme ça a été dit en introduction, à une forme d'exposition qui n'a jamais été testée pour ses effets sur le vivant, pas même chez les animaux de laboratoire, des rats ou des souris. Alors, certains vont me dire que c'est pas non plus légitime de faire des expériences avec des animaux. Moi, j'ai fait partie de la Société protectrice des animaux. Néanmoins, dans le domaine du cancer, tous les produits qui ont été démontrés comme cancérigènes chez les rongeurs, avec un laps de temps plus grand, parce qu'on vit plus longtemps que les rongeurs, un rat vit en moyenne 2 ans, nous on vit un peu plus, se sont aussi révélés cancérogènes chez l'être humain. Et je trouve qu'avant de balancer sur le marché un certain nombre de produits, oui, je suis pour qu'il y ait des tests chez l'animal, parce que si les animaux ne servent pas de cobayes, ce sont des êtres humains qui servent de cobayes. On le voit pour les produits chimiques, les produits qui sont dans les cosmétiques, où on dit non testés chez l'animal, mais les cosmétiques, la plupart sont testés chez des, entre guillemets, volontaires humains qui sont payés pour se faire ces tests. Donc qui va se faire payer pour qu'on teste les cosmétiques? Les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce que sinon... Donc est-ce qu'il est plus légitime de faire des expériences sur ceux qui manquent de moyens économiques que chez des animaux? Je pose la question. Chacun peut répondre ce qu'il veut. En tout cas, dans le cadre de la 5G, ce sont des champs électromagnétiques, les radiofréquences. C'est quoi? Donc, c'est pas un produit chimique, c'est un phénomène physique, comme la lumière, comme le son, les rayons X, quand vous passez une radio dans un cadre médical, quand vous habitez à côté d'une centrale nucléaire, et que de temps en temps, il y a quand même des choses qui en sortent qui ne sont pas censées en sortir, ou quand il y a un incident ou un accident. Donc ça, ce sont des radiations dites ionisantes pour l'effet qu'elles ont sur le vivant. Les champs électromagnétiques sont un autre type de radiation, qui sont dites non ionisantes, qui se traduisent finalement par un transfert d'énergie. Alors, on peut me répondre, ah oui, mais des champs magnétiques, il y en a toujours eu, il y a un champ magnétique terrestre. C'est exact. À un niveau extrêmement faible. Des millions, milliards de fois plus faible que ce que l'on crée de façon artificielle. Il y a toujours eu des phénomènes électriques. Évidemment, si un jour vous êtes foudroyé par un éclair, c'est un phénomène électrique qui peut tuer. Mais ce qu'il n'y a pas dans la nature, ce sont ces oscillations, les gens qui veulent parler gentiment de ces phénomènes vont vous parler de modulation de fréquence. Là, vous avez l'impression de voir les gentilles vagues de la mer par un jour de tempête. Ce sont des fréquences qui vont faire des oscillations de haut en bas, des centaines de fois par seconde, voire avec la 5G, des centaines de milliers de fois par seconde, voire des millions avec les ondes millimétriques. Donc c'est quelque chose qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui n'a rien de naturel. Et donc on peut penser, et on voit que le vivant, humain, animaux, insectes et plantes, ne sont pas faits pour être exposés à ces machins qui changent sans arrêt, d'énergie transmise, et donc le vivant réagit en général mal à ces bandes de fréquence. Alors à quelle bande de fréquence de façon précise? Eh bien, c'est actuellement que cela est décidé, puisque les États, dont la France, mais les autres États aussi, sont en train de vendre des blocs de fréquence aux différents opérateurs. Comme en plus il y a différents opérateurs dans un pays, ça fait autant de bandes de fréquences différentes qui sont vendues pour des prix autour de 1,5 milliard pour un opérateur. Mais pour l'Italie, pour la France, je n'ai pas vu beaucoup de prix en commençant à en parler, mais en Italie, où les bandes de fréquences ont déjà été vendues, c'est pour un total de 6 milliards d'euros. Pour 60 millions d'habitants, donc à peu près la même population que la France. Donc l'État va engranger de l'argent. Qu'est-ce qu'il en fera? Ça, c'est une autre question. Donc ça rapporte. Donc ces bandes de fréquence, comme je l'ai dit, n'ont jamais été testés chez l'humain. Et personnellement, comme j'ai dit, je fais partie de ceux qui auraient souhaité au minimum un moratoire. Pourquoi un moratoire? Il y a différents moratoires qui ont eu lieu dans l'histoire, mais si on pense dans le domaine scientifique, je suis suffisamment vieille pour avoir connu, en 1971, un moratoire sur les OGM, le moratoire d'Asilomar. Donc c'est encore un sujet qui nous inquiète tous, mais à cette époque-là, quand des scientifiques ont commencé à faire les premiers OGM en laboratoire, il y a quand même eu des inquiétudes qui ont été affirmées, et donc les scientifiques ont décidé de donner un temps de réflexion. Ça a servi à quoi? Ça a servi à faire un certain nombre de règlements, à mettre en place un certain nombre de registres. Donc on a enregistré toutes les personnes dans les laboratoires qui manipulaient ces OGM avant que des années après ils ne soient distribués larga manu dans le monde entier, et de suivre ces populations pour voir si oui ou non il y avait des effets néfastes. C'est ce qui a amené par exemple en France à la constitution du Haut Conseil des biotechnologies, qui est censé évaluer ce qui se fait dans le domaine des OGM. Donc un moratoire, ça peut être un temps de réflexion, et pour la 5G, ça pourrait être le temps de faire quand même quelques études, au moins sur des rats et des souris. Alors je sais bien qu'on veut penser qu'on est très différent des rats et des souris, mais enfin, d'un point de vue génome, on n'est pas si différent que ça. Une grande partie de notre génome est commun, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est mauvais pour la souris, en général, ça ne rend pas du bien à l'être humain ultérieurement. Donc, pourquoi je parle? Alors, si on ne sait rien, je pourrais fermer ma gueule. Non, parce qu'on sait quand même des choses sur les générations précédentes de radiofréquences champs électromagnétiques, 2G, 3G, après 4G. Mon domaine, c'est le cancer. J'ai passé ma vie dans le cancer en faisant ce qu'on appelle de l'épidémiologie. Donc, épidémiologie, vous entendez le mot épidémie, mais ce n'est pas que pour les maladies infectieuses. C'est en fait la science qui s'efforce de décrire les maladies au niveau des populations. Donc au-delà de la relation médecin-malade, un à un. Et ça, c'est l'épidémiologie descriptive, pour savoir combien il y a de cas de telle ou telle maladie, comment ça évolue dans le temps, est-ce que c'est différent d'un pays à un autre, d'un groupe social à un autre. Par exemple, si on regarde l'espérance de vie, en France, un ouvrier vit en moyenne 13 ans de moins que quelqu'un d'une classe sociale plus favorisée. Donc c'est ce type de données. Et la deuxième partie de l'épidémiologie, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie étiologique, qui est la recherche des causes de la maladie. Donc essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne va faire un cancer, va faire un Alzheimer, va faire un infarctus du myocarde, peu importe. Quels sont les facteurs de risque? Et moi, à l'époque, je travaillais à l'INSERM toute ma vie, et j'ai travaillé notamment pendant longtemps, 22 ans, au Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui est situé à Lyon, qui est l'agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé sur le cancer. Où là, vous avez des scientifiques de différentes disciplines qui essaye de trouver ses causes du cancer, le mécanisme du cancer. Et mon but dans la vie, c'était de faire cela pour la prévention. Parce qu'évidemment, quand les gens sont malades, il faut les traiter, il faudrait avoir de bons traitements, de meilleurs traitements, et des traitements à des prix abordables, non pas comme maintenant les nouvelles immunothérapies pour le cancer, ou une cure peut coûter 2 millions d'euros, donc ce qui veut dire que pas beaucoup de personnes pourront se permettre ce genre de traitement. mais de prévenir les cancers. Après tout, moi je reviens au temps d'Hippocrate, 4 siècles avant Jésus-Christ, qui avait dit d'abord ne pas nuire. Donc le rôle du médecin devrait être d'abord de ne pas être néfaste et de rechercher, déjà à l'époque, 4 siècles avant Jésus-Christ, il s'intéressait au rôle de l'environnement. Alors il s'intéressait à la qualité des sols, au vent, au climat, à l'humidité, etc. Donc des préoccupations qu'on devrait avoir encore aujourd'hui. Donc pourquoi essayer de prévenir les cancers ou d'autres pathologies? Moi je pense que la réponse est simple, parce que quand même ça serait tellement mieux si on était en forme. Mais pourtant c'est pas une discipline qui est vraiment respectée, surtout en France, où on considère que de se préoccuper de prévention quand on est un médecin, ça doit être pour les médecins débiles qui ne sont pas capables de faire de la clinique. C'est pas ça, c'est pas exactement ça. Et moi, finalement, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à l'époque, par exemple, des médecins dans la Chine antique, où ceux qui pouvaient se payer un médecin, c'est une petite partie de la population aussi, mais enfin, payer le médecin tant qu'ils étaient en forme, et arrêter de payer s'ils étaient malades, ce qui était au fond logique, parce qu'après tout, ils n'avaient pas réussi à les garder en forme. Donc, la prévention, pour faire bien dans une start-up économie, on pourrait dire que ça évitera des dépenses, mais ça, je ne suis même pas sûre que dans la France d'aujourd'hui, même cet argument s'apporte, parce que éviter des dépenses, ça veut dire qu'on va empêcher certaines personnes de faire du fric. Donc finalement, je ne suis même pas sûre que ça marche. Moi, en tout cas, ce qui m'intéressait, c'est vraiment que les personnes restent en forme le plus longtemps. Et alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut éviter? Il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Donc je ne veux pas dire c'est juste la 5G, ou la 5G c'est le pire de tout, c'est le premier de corder les trucs néfastes. C'est un machin hyper néfaste, on est tous d'accord, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est pas parce que je me bats contre la 5G que je ne vais pas non plus intervenir contre les pesticides et contre un certain nombre d'autres choses qui pourrissent notre environnement et donc qui pourrissent la santé. Donc on a étudié les effets de la 2G et la 3G. Mais avant même la naissance des téléphones portables, quels ont été les premiers utilisateurs de radiofréquences champs électromagnétiques? Ben, ça a été essentiellement les gens qui utilisaient des radars. Des radars à des fins militaires ou des radars à des fins d'aviation. Mais dans les années 50 déjà, l'Union soviétique, puisque c'était encore l'URSS, s'était posé la question de la santé des gens qui travaillaient face à des radars, parce qu'ils avaient noté que ces personnes-là faisaient plus de cancers que la population moyenne. Et donc, ils s'étaient posé des questions. Mais évidemment, ça avait été publié de façon ouverte, mais en russe. Alors, tout le monde ne lisait pas le russe, en plus, c'était dans un pays communiste, dans les autres pays, ça ne les intéressait pas de voir ce qui s'y faisait. Et donc, ça n'avait pas fait beaucoup de bruit. Après, on s'est rendu compte beaucoup plus tard qu'en fait, il n'y avait pas que les Russes qui s'intéressaient à ces radiofréquences et que les Américains, eux aussi, dans un cadre militaire avec la NASA, avaient étudié les radiofréquences. Et eux aussi avaient trouvé un risque accru de cancer, un risque accru de maladies cardiovasculaires, pas mal de pathologies pour les gens qui étaient exposés à ces radiofréquences. Mais ces documents, écrits en anglais, donc qui auraient pu circuler beaucoup plus facilement, avaient été classifiés secret défense, et donc ce n'est que très récemment que certains ont pu les refaire émerger pour se rendre compte qu'au fond, il y avait longtemps qu'on savait qu'exposer des humains à des radiofréquences, ça ne pouvait pas être très bon. Quand est-ce que ça s'est répandu au-delà des travailleurs des radars, des tours, les populations qui travaillent dans le domaine électrique en général, eh bien, l'entrée dans la maison de monsieur et madame tout le monde, ça a été le four à micro-ondes d'abord, qui était utilisé, un four évidemment, pour chauffer les aliments, ce qui montre que quand on expose un produit à des radiofréquences, finalement, on augmente la température puisque ça chauffe. Moi aussi, j'avais d'ailleurs un four à micro-ondes chez moi et je sais que je disais à mes gamins, j'ai toujours été suspicieuse face au nouveau truc, je leur disais, vous pouvez mettre les choses en micro-ondes, mais ne le regardez pas cuire, parce que souvent, les gamins, ils aiment bien regarder le gâteau en train de cuire, le truc, donc gardez une certaine distance. Et en fait, si le four est neuf et la porte fonctionne bien, il n'y a pas trop d'ondes qui s'échappent, mais au bout d'un certain temps quand même, là aussi, il vaut mieux ne pas rester planté devant un four à micro-ondes. Et après, l'étape d'après, ça a été la téléphonie mobile, où là, l'être humain a eu la bonne idée, du moins certains industriels ont eu la bonne idée de vendre, un émetteur de radiofréquence champ électromagnétique, que l'on se colle à proximité du cerveau. Alors quand même, certains se sont posé des questions pour savoir si cela pouvait avoir des effets néfastes sur le cerveau. Et la première question étudiée, et celle qui a été à ce jour la mieux étudiée, ça a été le risque de tumeur du cerveau pour l'utilisation des téléphones portables et également pour l'utilisation des téléphones sans fil, les deux ECT, où là aussi, comme il n'y a pas de fil, il faut bien que l'information soit transmise entre un récepteur et votre écouteur, donc là aussi, il y a une exposition à des champs électromagnétiques. Les premiers qui ont regardé cette relation potentielle entre les radiofréquences et les tumeurs du cerveau ont été des Nordiques, notamment Lennart Hardell, un Suédois, qui a fait une étude dans les pays nordiques, Suède, Norvège, Finlande, etc., et qui a montré à l'époque, donc avec les utilisations du téléphone portable dans les années 90, qui n'ont rien à voir avec celle d'aujourd'hui, que les gens qui utilisaient le plus un portable, mais le plus à l'époque, c'était les personnes qui l'utilisaient plus d'une demi-heure par jour ou qui l'avaient utilisé pendant plus de 10 ans, avaient un risque augmenté de tumeur du cerveau. Et il a eu l'intelligence de regarder en particulier l'âge auquel les personnes ont commencé à utiliser un portable. Et là, il s'est rendu compte que ceux qui avaient commencé avant l'âge de 20 ans avaient un risque à peu près triple. Donc, pour faire une comparaison, si on regarde le fait de fumer et le fait de développer un cancer du poumon, là, on a un risque qui est de l'ordre de 20. Donc, pour le moment, les risques ne sont pas encore extrêmement élevés, mais se rapporter à une utilisation qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus réduite que ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, on se servait d'un téléphone pour téléphoner. Ça, c'était la 2G, point final. Et puis après, on a dit, ah non, mais on peut envoyer des messages texte. 3G. Et après, on a dit, ah, mais ça ne suffit pas. On peut regarder une vidéo. Je veux savoir où je suis, au cas où je perds la tête. Je veux savoir quelle température il fait, je veux savoir quelle heure il est, je veux écouter de la musique, je veux, etc. Et finalement, le temps pendant lequel l'individu est en contact avec son appareil est devenu beaucoup plus important. Et quant à l'âge de début, malheureusement, maintenant, ce sont des gamins qui commencent à utiliser des portables, et des tablettes, et des ordinateurs sans fil, et qui passent leur vie devant des écrans. Donc, pour en revenir au risque de cancer, il a été vraiment montré la première fois à cette époque. Mais bon, une seule étude, ça ne suffit jamais pour convaincre. Donc ensuite, il y a eu une grande étude internationale qui s'appelle Interphol, qui a été faite dans 13 pays sous l'égide du CIRC pour regarder de nouveau le risque de cancer lié au téléphone portable. Cette étude a mis plusieurs années à se faire, une étude internationale, 13 pays, c'est long. Et même une fois que l'étude a été finie, on a encore attendu des années avant que l'étude ne soit publiée. Pourquoi ? Certainement parce que les investigateurs des 13 pays n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les mots à mettre autour des chiffres qu'ils avaient trouvés. Mais ils avaient trouvé ce qu'on avait déjà trouvé dans les pays nordiques, à savoir que les personnes qui avaient le plus utilisé un téléphone, eux, leur définition, c'était plus de 1634 heures, quelque chose comme ça, au cours de leur vie entière, avaient un risque plus élevé, avec un risque qui était notamment élevé du côté de la tête, avec du côté où ils mettaient le portable de façon habituelle, et qui touchait surtout les zones du cerveau, le lobe temporal, qui est la partie la plus proche de l'oreille. Donc finalement, on trouvait un risque là où on l'attendait. Pourquoi on a attendu aussi longtemps? Comme j'ai dit, parce qu'ils ont hésité quelque part avant de sortir ces résultats. Mais heureusement, à l'époque, les pays participants avaient été libres de publier, s'ils le souhaitaient, certains ne l'ont jamais fait, les résultats pour leur propre pays. Et on voyait déjà que c'était ceux qui avaient utilisé le plus un téléphone qui avaient un risque. Donc on avait une idée des résultats et qui montraient quand même quelque chose qui était inquiétant. Bon, finalement ça a été publié et ils ont dit que oui, les personnes les plus exposées avaient un risque plus élevé, mais que peut-être ça pouvait être dû à des biais, ou au hasard, parce que dans la statistique, il y a toujours la possibilité que quelque chose survienne par chance ou par malchance. Alors moi je dis que dans ce cas-là, je trouve que le hasard fait bien les choses, puisqu'il met un risque là où on l'attend. Si ça avait été les tout petits utilisateurs qui avaient un risque et pas ceux qui l'utilisaient beaucoup plus, là, ça aurait jeté un doute. Mais en fait, ces résultats étaient consistants avec ce qu'on attendait, avec les conditions d'utilisation des téléphones de l'époque. Donc cela a amené le Centre international de recherche sur le cancer à faire en 2011 une réunion qui s'appelle une réunion des monographies pour l'évaluation du risque de cancer pour l'être humain, où pendant 10 jours, vous avez des scientifiques indépendants, moins supposés indépendants, mais indépendants, qui vont se réunir pour évaluer toutes les études qui sont disponibles dans la littérature scientifique et voir comment ils vont classer ce qu'ils sont en train d'évaluer dans une échelle de cancérogénicité, en regardant donc les études épidémiologiques chez l'être humain, mais aussi les études chez l'animal de laboratoire. Et à l'époque, quand ils ont fait cet exercice en 2011, ils ont conclu que ces radiofréquences champs électromagnétiques appartenaient à un groupe des cancérogènes possibles, 2B, donc ce n'est pas au sommet de l'échelle, mais quand même, il y a un risque cancérogène qui demandera à être vérifié. La catégorie la plus haute de la classification, pour que aucune question ne se pose, c'est la catégorie 1, des cancérogènes avérés, où là, il n'y a pas de discussion, c'est vraiment un facteur de risque du cancer. Puis après, vous avez 2A, cancérogènes probables, on a quand même pas mal de données chez l'être humain, mais ce n'est pas sûr. Et 2B, où pour le moment, on n'a pas énormément de données. Certains disent que ça aurait dû être autre chose, une classification plus élevée. Moi qui participais à beaucoup de monographies, je dis non. En suivant les règles de classification, parce que ça ne se fait pas au hasard, il y a des règles extrêmement précises qui tiennent des pages et des pages, finalement, c'était le niveau de preuve qu'on avait en 2011 avec une utilisation qui était encore très modérée et portable. Le 31 mai 2011, le CIRC a publié un communiqué de presse pour dire « Les radiofréquences champs électromagnétiques sont des cancérogènes possibles. » Très bien. Et puis, pour un certain temps, on allait rester. Donc, à l'époque où cette évaluation avait été faite, il n'y avait aucune étude, dans la monographie ou dans toutes les études, il n'y avait aucune étude sur le risque chez l'enfant. Et puis, quelques temps après, mais c'est passé relativement inaperçu, il y a une étude qui a été publiée qui s'appelle Céphalo, ou Céphale, Céphalo, c'est normal, qui regardait le risque du cancer chez les enfants ou les jeunes, c'était de 7 à 19 ans, je pense, dans cette étude, qui avait utilisé un portable. Et cette étude a été présentée et écrite de façon extrêmement rassurante en disant qu'elle apportait des éléments supplémentaires qui allaient contre le rôle causal des radiofréquences dans la survenue des tumeurs. Et bon, ça, c'est ce qu'on lit si on lit le résumé et la conclusion. Mais il ne faut jamais se contenter de lire les résumés des études scientifiques, il faut d'abord aller regarder les chiffres. Donc, épidémiologistes, on passe notre vie dans les chiffres. Et si on regarde les chiffres dans cette étude, il y en a beaucoup. Il y a exactement, si je ne vais pas mal compter, 116 mesures de risque pour différentes catégories d'exposition, différentes durées d'exposition, du même côté de la tête, de l'autre côté, etc. Enfin, au total, les différentes parties du cerveau, il y a 116 mesures du risque. Quand il n'y a pas de risque, que donc un composé n'a aucun effet sur le risque du cancer, le risque relatif, on le met à la valeur de 1. Et quand c'est supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a une indication de risque, d'autant plus forte que le chiffre est plus élevé. Si on regarde ces 116 estimations du risque relatif, eh bien, il y en a 97 qui sont supérieurs à 1. Alors ça va de 1,04, pour en faire grand-chose, à 6. 6 fois plus de risque de cancer pour certaines catégories de cigarettes. Alors pourquoi ces chiffres ils ont été ignorés? Parce qu'en science, il y a une religion qui est la religion du statistiquement significatif. Donc c'est quoi ce jargon? C'est une mesure statistique de la fiabilité, en quelque sorte, du chiffre que l'on a obtenu. Et il y a deux façons de faire des études qui ne trouvent pas de risque statistiquement significatif. Un, c'est d'étudier quelque chose qui n'est pas un risque, c'est bon. Et le deuxième, c'est de faire des études trop petites, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas exclure sur un plan théorique le rôle de la chance. Et donc là, l'étude était trop petite pour que les résultats, il y en avait quand même 7 dans les tableaux qui étaient statistiquement significatifs, mais bon, dans l'ensemble, ça ne l'était pas. Donc cette étude a été présentée partout comme circulée, il n'y a rien à voir. Moi, je l'ai lu, je n'étais pas d'accord, puis je n'ai pas fait attention à tous les détails. Puis après, je suis revenue sur cette étude, et là, je me suis dit, je joue les hélices lucées à quelque part. Je me suis dit, ah, mais c'est pas possible. Alors, j'ai regardé les dates, parce que sur un article, vous avez la date à laquelle l'article a été soumis, la date à laquelle l'article a été accepté pour publication, puis finalement, la date à laquelle elle apparaît sous forme de papier ou électronique. Et là, j'ai vu que la date à laquelle l'article sous forme révisée, donc qui avait déjà fait un tour, avait été accepté, était le 7 juin 2011. Et je dis, c'est pas possible, une semaine après la monographie. Et parmi les auteurs, il y en avait trois qui étaient dans le groupe de ceux qui avaient décidé de la classification. Donc ils savaient parfaitement que cette étude, elle existait. Et dans le passé, en général, quand il y avait ces réunions des monographies et qu'on savait qu'il y avait des articles importants qui allaient être publiés, le CIR pouvait demander à la revue s'il pouvait accélérer un peu le processus pour qu'on puisse les évaluer. Là, rien n'a été dit, comme si cette étude n'existait pas. Est-ce que si cette étude avait été dans la monographie, ça aurait changé la classification, je ne sais pas. Je ne fais pas partie de ceux qui disent l'avenir dans une boule de cristal. Donc je ne sais pas. Mais quand même, je me dis que ces risques élevés pour une tumeur chez l'enfant, une tumeur du cerveau, ce n'est pas un cadeau. En général, un cancer, ce n'est pas un cadeau. Mais il y a quand même des cancers plus ou moins méchants. Et un des cancers les plus méchants sont les tumeurs du cerveau de type glioblastome. Parce que ça, même si vous avez tous les moyens de la planète, ben on n'en guérit pas encore à l'heure actuelle, on en meurt. Donc je me dis que quand même, ce type de chiffre aurait peut-être fait réfléchir les gens, peut-être ça aurait eu un impact. Mais bon, on ne refait pas le passé. Une autre étude a été décidée pour revoir cette question. Mobikit, c'est mon obsession depuis 2 ans et demi, 3 ans. Mobikit, c'est comme l'interphone, une étude qui a été faite dans 14 pays, cette fois-ci, avec pour l'Europe un financement de l'Union européenne, de la Commission européenne, à hauteur pas énorme pour une étude, mais de à peu près 6 millions d'euros, 3,5 pour la Commission, etc. Donc de l'argent public. Pour les pays européens, mais aussi les pays extra-européens. Et donc, Mobikit, le but est, avec davantage de cas de cancer, davantage de témoins, de re-regarder cet effet du téléphone portable. La collecte des données a été terminée dans le dernier des pays participants, fin 2015. Et le 13 janvier 2017, ceux qui ont reçu le financement ont dû renvoyer à la Commission européenne un rapport. C'est quand même, si on vous donne de l'argent, en théorie, vous devez dire ce que vous en avez fait. Et donc, ils ont renvoyé un rapport où ils décrivent l'étude, où ils décrivent les études de validation, où ils décrivent le recrutement des sujets, le pourquoi, le comment, etc. Et puis, il y a un paragraphe résultat. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ben non, c'est pas intéressant. Parce que dans le paragraphe résultat, il est écrit. Étant donné l'intérêt que suscitera cette étude dans le grand public, étant donné la fréquence d'utilisation de ce type de dispositif, nous devons être extrêmement prudents. Et donc, nous ne donnerons aucun résultat tant que nous n'aurons pas une publication dans une revue scientifique avec revue par des pairs. Une publication est en préparation, point. Et puis après, à la fin, on doit discuter de la diffusion des résultats, puisque normalement, quand vous faites une étude, ce n'est pas juste pour vous faire plaisir. Après, vous devez informer les populations. Là, ils reprennent l'argument que dès que l'étude sera publiée, évidemment, on informera toute la population qui pourra être intéressée par ces résultats, par tous les moyens adéquats, taratata. Très bien. Et donc, après, à partir de janvier 2017, j'ai commencé à attendre que cette étude sorte. Puis, une année est passée, une année et demie, et là, j'ai commencé, dans un certain nombre de lieux, à dire où sont les résultats de Mobikit. Ça m'a valu beaucoup d'ennuis, Notamment, j'ai été invitée, pas dans une assemblée comme ce soir, un autre style d'assemblée, à la Church House, le Parlement anglais, pour une réunion sur les cancers de l'enfant, qui était organisée par une charity, enfin un style ligue, sur les cancers de l'enfant au Royaume-Uni, qui m'avait invitée pour faire la conférence inaugurale, plénière. Donc je n'étais pas là par hasard, normalement, très bien. Et j'ai commencé à parler des tumeurs de l'enfant et j'ai parlé de Moby Kids. Alors ça a été diffusé directement en ligne et puis 2 heures après, ma conférence avait déjà disparu d'Internet. Alors j'ai dit, mais pourquoi vous avez supprimé ma conférence? Puisque toutes les autres, elles sont en ligne. Et là, on me dit, parce que on risquait de perdre des donneurs. Bon, je ne sais pas qui leur donne de l'argent, de grosses entreprises, hein, on risquait de perdre des donneurs. Je dis oui, mais enfin, quand même, c'était important ce que je racontais. Oui, mais bon, non. J'ai insisté, je suis assez têtue. Je ne sais pas ce que donc je suis têtue. Quand je veux quelque chose, je le veux. Et là, on m'a dit, bon, écoutez, si vous continuez, on va vous attaquer en diffamation. En diffamation, en diffamation. Bon, j'ai discuté avec un avocat, j'ai dit, diffamation, j'ai pas donné de nom. Il m'a dit, non, mais tu as donné des institutions. Ah, on peut diffamer les institutions? Oui, bien sûr. Ah, bon, très bien. Bon, après tout, je m'en fous. Sinon, ça pourrait parler de Moby Kids. Finalement, ils m'ont jamais attaqué en diffamation. Mais peu importe, les résultats, ils ne sont toujours pas là. Donc je continue à en parler. Ça n'a pas beaucoup d'impact, mais ça embête quand même un certain nombre de gens. Mais je m'en fous, c'est pas ça que je voudrais. Je voudrais vraiment voir ces résultats. Alors maintenant, c'est adressé à la Commission européenne, j'ai eu des mails absolument incroyables. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on les aura. Et mon problème, c'est que, bon, s'il n'y a pas de risque, c'est très bien, hein, s'il n'y a pas de risque, on le voit déjà, mais s'il n'y a pas de risque, c'est très bien, on pourra rassurer les gens. Si jamais cette étude a le même type de résultat que l'étude précédente, mais cette fois avec le double de cas, là, tout est statistiquement significatif. Donc là, c'est un cancérogène de groupe 1. Et c'est vrai que ça serait quand même bête qu'elle sorte avant le déroulement de la 5G. Donc je me dis, maintenant j'en arrive à dire, donc là je vais être accusée d'être complotiste évidemment, que ça sortira une fois que la 5G sera partout et qu'on ne pourra pas faire machine arrière. Je ne sais pas. Mais je n'arrive pas à comprendre. Et puis alors que pour Interphone, on pouvait présumer des résultats parce que les pays avaient publié leur truc, là je suis sûre que les pays ont signé un accord pour ne pas le publier avant l'enquête finale. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette étude. Et même à un moment, la Commission européenne a répondu que les programmes financés dans le cadre de FP7, c'est le nom du programme, il n'y a pas obligation de les rendre publics. Que maintenant, avec H2020, on rendra public. Mais quoi ? Pourquoi est-ce qu'on finance des projets si après, on ne rend pas les résultats publics à ce moment-là ? Pourquoi faire une étude? Donc, je ne sais pas, on a travaillé là-dessus avec des avocats pour essayer d'obtenir des résultats. Donc, il y a actuellement un silence, une omerta sur les études qui potentiellement montrent un risque. Et je trouve que c'est absolument inacceptable. Parce que moi, j'ai vu mourir des gamins d'une tumeur au cerveau, c'est pas marrant. Et donc, qu'on ne puisse pas informer les personnes si éventuellement il y a un risque, ce n'est pas acceptable. Est-ce qu'il y a eu d'autres études entre-temps? Oui, il y en a une autre chez l'adulte en France, Sérénate, où là aussi on a trouvé que les gens qui téléphonent plus d'une demi-heure par jour ont un risque à 3,5. Et puis il y a eu des études chez l'animal, de laboratoire, chez le rat, la souris, une grande étude américaine avec des milliers de rats à 25 millions de dollars. Et là, les rats qu'on a exposés corps entier, évidemment, ils ne téléphonent pas, ont eu la bonne idée de faire les mêmes tumeurs que l'être humain. Parce que parfois, quand on teste des cancérogènes chimiques, certains pesticides. Parfois, on voit chez l'humain un cancer du pancréas, chez le rat, on va trouver un cancer du poumon. Donc, c'est plus difficile à extrapoler. Mais là, ces pauvres petits rats américains, on fait des tumeurs du cerveau, il y en a, et on fait une tumeur extrêmement rare, qui est un schwannome des nerfs du cœur. Souvent, les gens disent on fait des tumeurs du cœur, non, c'est du nerf qui va au cœur. Et chez l'humain, on a en dehors des cancers une tumeur dite bénigne, mais qui est quand même très invalidante et qui entraîne une chirurgie lourde, qui sont les neurinomes du nerf acoustique. Évidemment, le nerf acoustique, c'est le premier exposé. Et donc, les cellules de Schwann, ce sont les cellules qui entourent la gaine des nerfs. Et là, chez le rat, on n'a même pas disséqué le nerf acoustique parce que c'est petit. Les nerfs qui arrivent au cœur font ce type de tumeur. Donc, les rats ont fait finalement les mêmes tumeurs que les humains, avec une irradiation qui était celle qui correspond au téléphone de la 2G et de la 3G. Corps entier, évidemment. Et puis après, il y a une autre étude d'un institut de recherche italien, le Ravezzini, qui a refait la même étude chez une autre espèce de rat, avec des niveaux d'exposition beaucoup plus faibles, donc du style de ceux que l'on peut avoir à proximité d'une antenne, non pas en se collant le téléphone sur l'oreille. Et de nouveau, les rats italiens ont fait le même type de tumeur. Donc on a de plus en plus de données pour penser que l'exposition de l'humain aux radiofréquences augmente le risque de tumeur. Et certainement aussi, peut-être, après on découvrira avec le temps, d'autres sites éventuellement que le cerveau. Donc ça, c'est l'état des connaissances concernant essentiellement le cancer. Mais en plus, il y a d'autres pathologies. Alors, il y a des pathologies très logiques, en quelque sorte, qui sont des pathologies cardiaques. D'ailleurs, les rats américains ont aussi fait des problèmes cardiaques chez l'humain, avec essentiellement des troubles du rythme. Donc, si vous avez un téléphone portable, il ne faut pas le mettre dans la poche de poitrine, dans la poche de chemise, pour les hommes qui portent encore des chemises, mais ça devient rare, donc peut-être que ça va faire de la prévention. En tout cas, si vous avez un pacemaker, il ne faut vraiment pas le mettre là. Également, il est recommandé de ne pas mettre le téléphone dans la poche avant ou dans le talon, surtout pour les hommes, parce qu'on a démontré que l'exposition aux champs électromagnétiques modifie la qualité du sperme. Et sur le sperme, si on expose du sperme à des champs électromagnétiques, finalement les petits spermatozoïdes n'ont pas l'air d'aimer trop ça. Donc ça aussi c'est important. Il y a eu moins d'études systématiquement faites selon des protocoles rigoureux. Et puis, il y a la grande question de l'électro-hypersensibilité. Alors là, je ne me transformerai pas en spécialiste de l'HESS, comme d'autres cancérologues français qui, en prenant la retraite, sont devenus spécialistes de l'HES. Comme ça, ça leur permet de continuer à avoir des revenus plus que confortables. C'est une vraie pathologie. Donc, le HES, ça existe. Et les gens sont très mal. S'il y a des EHS ici aujourd'hui, ils pourront ou elles pourront témoigner, plus souvent des femmes que des hommes, avec un tableau qui est évidemment très difficile à définir, parce que ce sont des douleurs, ce sont des maux de tête, ce sont des sentiments de faiblesse extrême, c'est de l'insomnie, ce sont des sautes d'humeur. C'est des tas de choses, mais qu'il est difficile de rassembler dans un tableau précis, qui vont être variables d'une personne à une autre, déclenchées par des circonstances différentes, etc. Mais les EHS, néanmoins, vivent très mal et vivent finalement en exclusion pratiquement de la société, parce qu'il y a partout des champs électromagnétiques. Donc c'est une condition qui est reconnue maintenant, y compris en France par l'ANSES, mais qui est encore mal définie. et pour lequel on n'a pas de signes irréfutables. Je sais qu'il y en a qui ont des tas d'examens qui coûtent très cher, l'électroencéphalon, je ne sais pas quoi, qui coûtent 300 ou 400 euros, non remboursés, bien sûr, et des profils biologiques très sophistiqués, là aussi, coûtent très cher. Ce qui fait que l'évaluation d'une personne EHS, c'est autour de 1000 euros, plus le fait de se déplacer éventuellement dans une autre ville, plus etc., pour trouver un syndrome qui est un syndrome inflammatoire, comme l'ont aussi ceux qui sont sensibles aux produits chimiques, mais où il n'y a pas de véritable spécificité. Donc on fait quoi face à ces personnes? Ben, il y en a qui tiennent des discours extrêmement effrayants en disant « vous êtes en état de pré-Alzheimer ». Mais qui n'est pas en état de pré-Alzheimer? On l'est tous. Alors, un pré-Alzheimer, je ne sais pas ce que c'est. Mais par contre, ça fout la trouille. Donc, après, on peut proposer des traitements, là aussi, qui mériteraient d'être évalués de façon correcte pour aider ces personnes. Donc, c'est une vraie question scientifique qui devrait être vraiment étudiée. Parce que sinon, ces personnes, non seulement se retrouvent en marge de la société, mais en plus, on leur vend un tas de gadgets, dont peut-être certains marchent. Là aussi, il faut les tester pour s'en assurer. Ou alors, on leur propose, après un diagnostic de leur maison, de blinder tout leur système électrique, de mettre des panneaux de blindage sur les surfaces de l'antenne, les plus efficaces. Et un des bouquins précise à 99,99999, alors il peut écrire 100%, ok, ou 99, tout ça veut dire 99,99999, à 1000 euros le mètre carré. Donc, je pense que là encore, il faudrait un peu de sérieux avant de ruiner en plus ces personnes qui vivent déjà dans des situations difficiles. Le dernier groupe dont je parlais, ce sera les gamins, parce que les gamins, quand même, c'est le futur de notre monde, si notre monde continue à exister. Et les gamins, maintenant, en dehors du risque de tumeur du cerveau, peut-être un jour on le saura, de toute façon, ce que l'on voit, c'est que le temps passé face à des écrans a une influence totalement néfaste sur leur capacité d'apprentissage, sur leur capacité d'attention, sur certains troubles du comportement. Donc, se servir de temps en temps d'un ordinateur, oui, pourquoi pas, c'est incontournable dans notre société, mais on peut avoir des ordinateurs câblés. Il n'y a pas besoin de toujours fonctionner en Wi-Fi. Et donc il y a un vrai problème. Et il faudrait éviter que les enfants utilisent des téléphones portables, des tablettes, des objets connectés. Et pourquoi une raison supplémentaire d'être inquiet pour la 5G? D'abord, pourquoi on a besoin de la 5G? Les opérateurs nous ont dit au départ, maintenant ils ont changé un peu leur discours, mais au départ ils ont dit parce que grâce à la 5G, vous allez pouvoir décharger un film en quelques millisecondes. Ok, c'est bien de décharger en quelques millisecondes, de toute façon après vous prendrez une heure et demie pour le regarder, mais bon. Donc, très bien. Et il y aura la possibilité de transmettre beaucoup plus d'informations. Avec un téléphone quand même qui va être mis sur le marché autour de 2000-2500 euros. C'est pas mal. Mais pourquoi, en fait, on a besoin de la 5G? Ça, c'est un argument de vent. La réalité, c'est que la 5G, on en a besoin pour transmettre une quantité absolument astronomique de données entre différents éléments. Et on a besoin de la 5G pour la société de demain, où vous aurez plusieurs millions d'objets dit connecté, vu qu'ils sont déconnectés, enfin bon, ça c'est le vocabulaire, connecté, sans quoi de fil, autour de vous. C'est le monde où on aura des voitures autonomes qui conduiront toutes seules. Évidemment, vous comprenez tous que pour qu'une voiture conduise toute seule et soit censée s'arrêter si elle voit un piéton ou autre chose sur sa route, il faut évidemment qu'il y ait un ordinateur qui traite une quantité de données extraordinaire. Parce qu'il faut prendre en compte tout ce qui est autour de la voiture, le feu rouge, s'il y a un feu rouge, l'individu qui arrive à côté alors qu'il n'est pas censé y être, etc. Donc, il faut un transfert d'informations absolument gigantesque. Surtout si vous mettez les voitures autonomes sur des routes normales. Parce que si vous avez, comme on a déjà dans le métro, des métros sans conducteur, etc., mais sur des rails, c'est difficile d'aller ailleurs que sur le rail. Donc, les voitures, c'est autre chose. Mais il n'y a pas que ça. Chez vous, vous aurez tous, vous avez sans doute déjà tous, beaucoup, si vous avez des électroménagers récents, des appareils qui peuvent devenir intelligents. Un appareil intelligent, pour moi, ça me gêne. Les smart, smart, ça veut dire intelligent. Ça veut dire futé, finalement. Et donc, l'appareil futé. Bon, peu importe. Donc, quand votre frigo se rendra compte que dans le casier pour les œufs, il n'y a plus d'œufs, il vous enverra un message sur votre portable pour dire il n'y a plus d'œufs. Très bien. Il vous dira les choses sont cuites, le store est fermé, le machin, bon, tout ce que vous voulez. Et on arrive à des choses qui ont déjà été mises sur le marché aux États-Unis, pas encore chez nous, que je trouve quand même un summum, qui sont les couches connectées pour les gamins. Donc, couches, ce n'est quand même près notamment des organes génitaux du petit garçon, mais même des ovaires de la petite fille à l'intérieur, qui va dire « Ah, la couche est mouillée !» On va changer la couche. Et pour les femmes, il y a des tampons périodiques connectés. Au moment de changer de tampon. Bon, donc là, s'il n'y avait aucun risque pour le fait d'être irradié, enfin, pourquoi pas, mais d'un autre côté, irradier en permanence un gamin pour qu'on sache quand est-ce qu'il faut changer la couche, personnellement, moi, j'en réserve mon utilité, mais quand même. Et en Italie, ils viennent de mettre sur le marché un siège auto-connecté. Donc, vous mettez votre gamin dans le siège auto, si vous fermez la voiture et que vous avez oublié le gamin, là, vous aurez un bip-bip sur le téléphone pour vous dire que vous avez oublié le gamin. Donc, tout ça, ça peut nous faire rire, mais en fait, c'est vraiment pas marrant. Et donc, on va baigner tous dans des champs électromagnétiques en permanence. Ce qui veut dire que les pauvres épidémiologistes de demain, déjà que la recherche publique est mal barrée, mais de toute façon, ils ne pourront même plus faire des études, parce que pour faire une étude, il faut comparer des gens exposés à des gens non exposés. Mais avec la 5G, des non-exposés, il n'y en aura plus. Et il n'y en aura plus sur la planète, parce qu'en dehors des antennes sur Terre, il y aura, comme l'a dit le premier orateur, il y aura tous ces satellites qui vont tourner là-haut. Alors là-haut aussi, ce n'est pas encore l'encombrement du périphérique le matin, à Paris ou à Bordeaux, mais quand même, ça commence à être encombré. Il y a beaucoup de satellites, parce que ça fait quand même des années qu'on balance des satellites militaires, des satellites de communication, des satellites météorologiques. Et là, en fait, les météorologues sont extrêmement inquiets parce que les fréquences de certains de leurs satellites, qui, dans ces temps de changement climatique, permettent de prédire des événements extrêmes, de dire il va y avoir un tsunami, il va y avoir des pluies extrêmement abondantes, c'est une information qui peut être utile, vont être perturbées par les autres satellites alentour, et donc ils ne sauront plus transmettre leur information. Donc la semaine dernière, beaucoup de pétitions qui circulent, moi aussi j'en ai signé, puis après, de toute façon, pour l'intérêt des pétitions, c'est comme les cahiers du débat national, ça sera mis quelque part, mais on ne fera pas grand-chose, mais enfin, bon, quand même, on va continuer. qui va se passer. Donc là, les astronomes ont fait une pétition qui est super bien, qui est signée que par les astronomes, en disant on ne peut pas mettre 30 000 satellites supplémentaires en orbite. Alors il y a les Chinois qui vont en mettre, les Américains vont en mettre, mais la France aussi. On a kand même une base spatiale à Kourou, il faut bien qu'elle serve à envoyer quelque chose là-haut. Puis il y a même un pays arabe, je ne sais plus lequel, il y a même un satellite arabe, ils veulent marquer pour vous aussi, ils auront un satellite là-haut. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 30 000 satellites supplémentaires qui vont irradier, alors là, tout le monde. Donc c'est utile, parce que si vous allez faire du voilier, moi j'ai la trouille sur un voilier, mais encore, il y en a qui aiment ça. Si vous allez au milieu du Pacifique et que vous êtes en train de couler, ça peut arriver, pourtant que les océans aussi sont encombrés, vous savez même ce que vous pouvez rencontrer, et bien au moins vous pourrez passer un coup de fil chez vous pour dire je crois que je vais mal finir là. Parce que le temps que les secours arrivent, évidemment au milieu du Pacifique, ils n'arriveront pas du satellite. Donc, on a vraiment un vrai problème. Et finalement, la 5G, c'est une porte d'entrée dans aussi le transhumanisme, dans le monde des robots. Une voiture autonome, c'est un robot. Les robots domestiques, ce sont des robots. Maintenant, pour pallier le fait que quand on est vieux et qu'on se retrouve dans une EHPAD, ce qui n'est pas amusant, et ben, dans les EHPAD japonaises, maintenant, ils mettent des robots qui peuvent échanger avec le pauvre vieux. Moi, je n'ai pas envie de ça personnellement, mais enfin bon, il y en a que ça peut amuser. Et c'est pour tous ces objets qu'on a besoin de la 5G. Ce n'est pas pour la téléphonie. Et ça, même les opérateurs maintenant peuvent le reconnaître. Donc c'est en fait, et c'est vrai que là, c'est un changement de société pratiquement. Alors, dans ma vie, je me suis battue contre beaucoup de choses, contre les industries pharmaceutiques, en regardant la cancérogénicité de certains de leurs médicaments, ils n'appréciaient pas, contre les histoires de la viande aux hormones, quand il y a eu la bataille Europe versus États-Unis-Canada pour que l'Europe ne soit pas obligée d'importer de la viande traitée aux hormones. 13 ans, ça a duré, 13 ans. Des milliers de pages lues, des centaines de pages écrites. On a fini, l'Europe a fini par gagner. Les experts européens, on avait bien travaillé. Puis en plus, les avocats avaient choisi des experts européens qui tous avaient au moins un diplôme d'une université américaine, qu'on puisse pas dire qu'on ne savait pas de quoi on parlait. Donc on a fini par gagner. On n'est pas obligé de bouffer cette viande aux hormones. Donc j'étais contente au bout de 13 ans. Et là, récemment, un jour, j'ai appelé mon fils, je lui ai dit « Ah, ça recommence la viande aux hormones !» Parce que bon, il y avait suffisant. Donc maintenant, avec le CETA, le Mercosur, on va se retrouver la viande aux hormones. Même si Macron a dit maintenant, la viande aux hormones, elle ne rentrera pas. Je ne sais pas pourquoi il signe des accords, puisque rien ne rentrera. Mais enfin bon, il faut lui demander à lui, moi je suis pas bon. Donc, je me suis battue contre des intérêts. Ça m'a posé un certain nombre de problèmes. Mais ça, je comprenais. Puis là, je me dis, mais finalement, la 5G, là, mais contre quoi je me bats ? Qui je suis ? Moi, graine de sable pour aller contre. Là, c'est des milliards de milliards. Donc, d'un point de vue fric, c'est incommensurable. Donc, c'est vraiment un défi absolument gigantesque. Est-ce que les populations peuvent faire quelque chose pour empêcher ça? Je ne sais pas. Pour ça, il faut faire de l'information. C'est pour ça que je viens parler à tous les publics qui veulent m'entendre. Parce que je pense que c'est important que les gens sachent, d'autant que maintenant, l'information qu'on trouve dans les médias est calibrée pour ne pas faire de vagues. Donc, après, c'est à chacun d'entre nous à agir. Alors il y a des choses que chacun d'entre vous, vous pouvez faire. Donc, en ce qui concerne le portable, si vous en avez un, ça c'est des conseils qu'on avait donnés en 2008 avec David Savant-Schreiner, avant que lui aussi ne meure d'un glioblastome. Pourtant il avait accès à tous les médecins de la planète, s'il voulait. quand vous téléphonez, ne faites pas toucher la peau à votre téléphone. Gardez au moins 2 cm. Si vous n'entendez pas, vous le mettez en haut-parleur et comme ça vous entendrez. Mais ne faites pas toucher la peau. Ne gardez pas un téléphone, soi-disant intelligent, un smartphone, que moi j'appelle un stupid phone. Ne gardez pas vos stupid phones contre vous, contre aucune partie de votre corps. Ni votre cœur, ni votre appareil génital, ni rien du tout. Gardez-le à distance. Donc, si vous avez un sac, les femmes ont un sac, mettez-le dans le sac plutôt que dans les poches. Et les hommes, devriez-vous avoir un sac. Il y a une époque où ils ont ménagé. Bon, enfin, bon, bref. Gardez-le à distance. Et si vous n'en avez pas besoin, au bureau, essayez d'utiliser une ligne filaire. Cassé les pieds à l'université quand on m'a changé mon téléphone, ma mère me dérossait, il dit ah, je veux un téléphone filaire, un vieux téléphone. Moi, j'ai fini par trouver un vieux téléphone dans un placard et j'ai pu reprendre un téléphone filaire. Celui-là, il ne m'y ravit pas quand je téléphone. Et si vous gardez votre téléphone, gardez-le à l'autre bout de la pièce, vous l'entendrez quand même. Ne dormez pas à côté de votre téléphone. Et surtout, ne donnez pas un téléphone au gamin. Quand je voyage en train, je vois des mamans avec des bébés, des gamins petits. Le gamin se met à pleurer, elle leur donne un téléphone. Parce que ça fait du bruit, ça fait de la lumière. Ça, ok. Au début, j'allais trouver les mamans et j'essayais de leur dire « Ça serait mieux si vous lui donniez un autre jouet, parce que quand même, un téléphone, ça ira, ça peut être dangereux. » Regardez, vous l'avez dit, et mon mère, vous savez, elle peut rester à sa place. Bon. Après, je me suis dit, finalement, je suis idiote. C'est pas ça qu'il faut que je leur dise. Et j'ai été femme, il y a un homme qui était assise à côté de moi, qui me téléphone. Je lui ai dit, quand même, le téléphone, ça doit coûter cher. Vous n'avez pas peur qu'il le casse. Et voilà. Elle a enlevé le téléphone. Et elle m'a pardonné le truc trajet. Donc maintenant, j'utilise cet argument. Je me dis quand même, mais bon, l'essentiel, c'est que le gamin, il soit pas exposé, surtout dans un train qui fait cage de Faraday, donc vous êtes encore beaucoup plus exposé aux champs électromagnétiques. Maintenant, il y a des personnes qui veulent demander qu'il y ait des wagons sans Wi-Fi et où le téléphone soit interdit, comme à une époque, il y a eu des wagons fumeurs et des wagons non fumeurs. Donc, pourquoi pas? Mais ça me rend très triste de me dire que si je dis à une maman que son téléphone coûte cher et qu'on va le casser, ben elle l'enlève, et que si j'essaye de lui dire gentiment que c'est pas bon pour la santé d'un gamin, qu'il faudrait le faire jouer avec autre chose, finalement, ça n'a pas d'impact. Et finalement, je trouve que les contenus que l'on a sur tous ces appareils aussi façonnent notre façon de penser, notre façon d'être. Si maintenant on a des tas d'amis sur Facebook ou autre, et donc finalement on va, là je sors de la santé mais ça fait rien, on va vers une déshumanisation et on est en train de nous transformer les humains déjà en robots, où finalement nous aussi on réagit aux likes comme le robot pourra réagir, mais aussi il pourra décider sur quel bouton il appuie. C'est triste. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Qui peut faire quelque chose? En théorie, ce sont les gouvernements, parce que c'est eux qui votent des textes de loi. Alors, déjà, il faudrait davantage de bons juristes qui s'intéressent à ces problèmes pour éventuellement préparer déjà des textes de loi qui tiennent la route, c'est pas évident. Et après, pour les faire voter par des politiques. Mais bon, c'est un exercice difficile. Donc, comment se faire entendre? Ici, dans cette assemblée, il y a des gilets jaunes. Pour moi, c'est vachement difficile de se faire entendre. Ils ne veulent pas entendre. Il n'y a pas plus sourd que celui qui veut entendre. Donc là... Comment faire remonter ce type d'information? Et c'est là que les milliards de milliards de milliards auxquels on s'oppose m'ont effrayée. Parce que je me suis dit, les seuls, finalement, qui sont écoutés dans notre pays et dans un certain nombre d'autres, ce sont les quelques milliardaires qui sont autour de nos gouvernements. Et là, on a en France Xavier Niel, Martin Bouygues, enfin tous ces gens-là qui sont des bons copains de notre président et qui sont aussi dans la télévision mobile. Ce qui fait que si, il y a 15 ans, j'avais réussi à avoir une page entière dans Le Monde pour parler du problème de ces cancérigènes que l'individu ne peut pas contrôler, tous les problèmes de l'environnement, mais maintenant j'aurais pas un tiers de ligne dans Le Monde. Et dans la plupart des autres journaux, pour essayer de faire passer quelque chose, personne n'en peut. Alors c'est en train de commencer un tout petit peu à changer. Il y avait un truc sur la 5G dans le Canard enchaîné cette semaine, donc peut-être que ça va bouger un peu. Mais personne n'en veut. L'humanité, j'ai réussi à faire passer le truc, l'humanité et la Croix, finalement, soit les deux seuls journaux différents, hein, mais qui ont une certaine indépendance, ils ne sont pas dans les mains des 3-4 personnes qui possèdent toute la presse, plus les télés, plus un certain nombre de réseaux sociaux. Donc il faut compter sur chaque personne pour essayer de se faire entendre, de faire pression. En période électorale, c'est une bonne période pour demander aux candidats, parce que les candidats, ils vont vous promettre tout ce que vous voulez, mais quand même, on peut toujours leur demander. Est-ce qu'ils vont prendre des arrêtés contre la 5G? Il y a un certain nombre de maires, de petites communes en général, qui ont pris des arrêtés anti-pesticides. Évidemment, ils vont être cassés. Mais quand même, ça a fait parler des choses. En Italie, il y a à peu près 129 maires qui ont pris des arrêtés anti-5G. Je pense que ça aussi, ça sera cassé. Mais au moins, ça permet de faire prendre conscience aux gens qu'il y a un problème. Et donc, en période électorale, dans n'importe quelle ville, je pense qu'il faut demander aux candidats, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous ferez sur un certain nombre de problèmes. Puis on peut leur poser deux questions, aussi bien la 5G que les arrêtés anti-pesticides, quand le gouvernement propose une distance de 3 à 5 mètres, dire, pourquoi n'ont-ils pas le courage de dire « non, on ne fait rien ». Et pareil pour les antennes. Alors la difficulté des antennes de la 5G, c'est que ce sont de toutes petites antennes, mais il en faut beaucoup, tous les 100 à 150 mètres. Donc il y en aura partout, mais elles sont petites. Donc on pourra les mettre dans les abribus. Le choix à Bordeaux de Bouygues. Non, pas Bouygues, c'est qu'on a à Bordeaux. Enfin, l'un des opérateurs, celui qui teste à Bordeaux. Dans les antennes de magasins, il y a une grande chaîne, je ne sais pas laquelle, là, qui a proposé ses enseignes. Évidemment, on leur donne de l'argent s'ils mettent des antennes. Donc, les antennes, on ne les verra même pas. Et puis maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que les antennes 4G sont modifiés pour servir de relais pour les antennes 5G. Donc on ne voit pas la différence, à part que les parties de l'antenne vont être différentes, elles ont une forme un peu différente, mais bon, c'est discret. En plus, dans des villes test, on a commencé à les installer la nuit, pour ne pas déranger la circulation, bien sûr. Donc, on a quand même de vrais problèmes. Et donc, je pense que les maires, on peut leur parler. Parce que si on rêve et qu'il y avait des centaines de maires qui disaient non, est-ce que ce gouvernement les entendrait? C'est pas sûr. Mais enfin, on pourrait au moins essayer. Donc, je pense qu'il y a des actions que les citoyens doivent mener ensemble parce qu'un tout seul, on n'y arrivera pas, pour essayer de dire, écoutez, on ne sait pas, personne ne sait exactement ce qu'est la 5G, mais il me semble qu'il faudrait faire un petit peu attention, et avant, on aurait besoin d'un laboratoire, on aurait besoin d'une étude chez l'animal, et on aurait besoin peut-être des résultats des études qui ont été faites et qui n'ont pas été rendues. Notre sort est en partie entre nos mains, et je pense qu'on a intérêt à ne pas s'endormir, parce que sinon, quand on se réveillera, on sera déjà transformé à moitié en robot. Voilà, je pense que je vais en rester là. Je vais prendre toutes les questions que vous voulez, les critiques, les commentaires.